Bon, bonjour à tous. Désolé, on a déjà un petit peu de retard. En plus, je vais être maître du temps et j'étais le premier à avoir 2 minutes de retard, donc c'est pas bien du tout, mais je vois que j'étais suivi, enfin en tout cas précédé. Donc, on m'a demandé, enfin Alice m'a demandé, et j'accepte, et j'ai accepté avec plaisir de présider cette session cet après-midi sur la formation en sciences sociales, des épidémies, modèles et bilans. Donc, transmettre des expériences de formation. Donc, vous allez avoir un certain nombre de présentations dans des contextes très variés et des façons assez variées aussi de penser et de mettre en œuvre des formations. Donc, on va débattre de ça. Alors, on prévoit 10 minutes par intervenant, 5 minutes de discussion après chaque intervention. Je serai très strict sur les 10 minutes et sur les 5 minutes, parce qu'on a prévu aussi un quart d'heure à la fin de discussion générale, qui peut être la partie peut-être la plus dynamique. Mais si jamais chacun prend 2 minutes, ben les 15 minutes seront épuisées, d'autant qu'on a déjà presque 10 minutes de retard, et qu'en plus, on m'a demandé de dire un petit mot. Et donc, j'ai pas préparé de speech ni rien, mais juste une réflexion à la lecture du petit document d'introduction, enfin du petit texte d'introduction que vous avez tous eu. Les questions qui sont posées sont extrêmement pertinentes, mais il y a toujours une chose qui m'interpelle dans ces discours, c'est la sempiternelle question de l'instrumentalisation des sciences sociales par les sciences biomédicales. Entre parenthèses, on ne parle jamais de l'inverse, dont on peut toujours essayer de penser que ça puisse exister aussi, mais c'est pas pour faire une polémique, mais c'est pour dire que ça. Je sais que ça revient très très souvent, et je pense que c'est très réducteur en fait. Enfin, c'est une façon assez. Je suppose qu'il est vécu douloureusement par les sciences sociales, l'instrumentalisation. Je pense que l'instrumentalisation est toujours vécue douloureusement, qui qu'on soit ou qu'on soit. Est-ce que c'est. Et c'est peut-être la réflexion qu'on doit se poser. Est-ce que c'est un travers spécial des biomédicaux, entre guillemets, que d'avoir cette tendance? Ou est-ce que c'est juste la reconnaissance, finalement, d'une insuffisance criante dans la réflexion biomédicale qui fait que quand on ne sait pas, et quand, plutôt que de réfléchir, on se dit, bon, ben, d'autres sont payés pour réfléchir, et on va les interpeller, enfin, réfléchir à des questions auxquelles nous, on n'est pas forcément habitué à réfléchir. Donc, voilà, ça, c'était ma réflexion initiale par rapport à cette introduction. Je ne sais pas si on ne va pas répondre à ce genre de questions, mais c'était pour lancer les choses et le débat. Et donc, on va tout de suite passer la parole à Jessica Abate. Jessica, oh là, encore plus biomédicale que moi, elle est carrément modélisatrice.
Bon, écologie, évolution.
Écologie, évolution et modélisation. Il ne faut pas se cacher, hein. Si tu fais de la modélisation, tu as le droit de le dire.
La modélisation, ouais. Mais aussi la biologie principale, je fais des manips et le BM aussi. Donc, bonjour, je suis ravie d'y être. Et désolée pour mes fautes en français, je suis américaine. Bon, j'organise un peu. Un atelier dont je vais vous parler qui est passé cette janvier à Conakry, Guinée, qui s'appelle Réponse aux épidémies. Et c'est comme ça. Donc, c'était organisé par l'équipe de portage du PSIP, qui est le programme structurant interdisciplinaire et partenariat. C'est un programme interne à l'IRD qui vise, et notre PSIP, c'est changements globaux et risques infectieux émergents, qui vise à développer des activités de veille épidémiologique et de la surveillance d'infections émergentes et réémergentes, à mieux préparer les populations et les acteurs de la santé pour faire face aux menaces épidémiologiques et comprendre les bases socio-culturelles de la population de ces infections et à améliorer l'accès aux soins et des traitements de qualité. Bon. Donc, il y a trois porteurs. Il y a Jean-François Étard, qui est plutôt épidémiologiste, médecin. Il y a Benjamin Roche, qui fait de la modélisation et écologie comme moi, et Laetitia Lanidot, que vous connaissez peut-être, qui est un sociologue, anthropologue, désolé. Et puis Yves Martin Prival, qui est le référent du département SAS, et moi. Bon, cette formation visait à donner les informations et des outils pour effectuer des études attentives et réactives aux émergences. Pour faciliter des discussions transversales, solutions éventuelles à différentes problématiques en commun, et pour construire et renforcer des réseaux collaboratifs sud-sud, mais aussi nord-sud, pour le soutien, le partage d'infos et transfert de connaissances. Bon, on a dû sélectionner pas mal de candidats. Il y avait 253 candidatures, dont que 24 étaient sélectionnées parce que à cause d'une financière, mais aussi pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble et pas trop large. Mais quand même, c'était moins de 10% des candidatures. Donc, il y a beaucoup de besoins de ce genre de truc qui vise à parler entre des disciplines. Et donc, il y avait 9 pays représentés, dont 22 participants. Il y avait 2 désistements. Dernière minute, malheureusement. Mais donc, des pays francophones, africains, et avec des profils très diversifiés, donc des médecins, des épidémiologistes, des anthropologues, biologistes, entomologistes, et des représentatifs de la santé publique. Donc, il y avait 3 modules. Le REPEPI, c'était pour l'épidémiologie, santé publique, médecin, biologie des maladies. Les sciences sociales, donc la géographie de la santé, sociologie, anthropologie. Et puis la modélisation, donc les modélisations de biomathématiques et aussi les aspects plus écologie. Et puis une journée de clôture. Donc, le premier, c'était le module REPEPI, donc réponse aux épidémies, organisé par le Epicentre, qui était dernièrement partie des Médecins sans frontières. Et donc, c'était pour homogénéiser le vocabulaire et les fondamentaux d'épidémiologie pour qu'on puisse discuter tout ensemble. Et puis, et aussi les méthodologies d'investigation d'une épidémie à travers des études de cas. Donc, on a fait tout ensemble des études de cas. Donc, il y avait une animation d'un référent guinéen pour commencer et donc plusieurs professionnels avec l'expérience avec ces maladies. Et donc, on a discuté une maladie d'étiologie inconnue, puis la rougeole, le choléra, le paludisme, les méningites et aussi les fièvres hémorragiques comme l'Ebola et aussi la dengue. Et donc, la pédagogie, c'était les présentations, animations, puis les études de cas en groupe et puis les discussions. Et ça marchait très bien comme ça. Et beaucoup aussi de convivialité, de points de convivialité où on a pas mal discuté. Et donc, c'était pour faciliter des interactivités avec les participants et l'intégration des différentes disciplines et pour discuter quels facteurs à considérer, comment construire les équipes de riposte des maladies. Et aussi, quelles actions aider, comment les effectuer, comment les évaluer. Puis le module 2, c'était la deuxième semaine, donc c'était 2 semaines. Donc le premier, ça a pris une semaine entière. Et puis 2 jours de module SHS, y compris géographie de la santé, les politiques publiques de santé, et aussi la sociologie pendant l'épidémie de l'Ebola en Guinée. Puis il y avait le modèle modélisation où on a discuté des modèles statistiques versus mathématiques et puis pourquoi et comment les utiliser, les facteurs écologie et un tout petit peu sur les évolutifs. Et puis l'implémentation sur ordinateur, comme les études de cas. On a fait vraiment des choses ensemble pour bien comprendre l'utilité de ces outils et pourquoi comprendre la biologie et les facteurs derrière. Et donc, il y avait une journée de clôture, vous pouvez lire, mais il y avait des présentations variées sur les systèmes de surveillance, la recherche en situation d'urgence, I'm not going to translate, but state humanitarian verticalism versus universal healthcare coverage, health coverage. Donc, avec Laetitia, un peu une vue de French International Assistance. Et puis, data sharing et tous ces sujets de partage de données et de connaissances dont on a pas mal discuté ce matin. Donc, les retours sur l'atelier, c'était très, très, très positif. Il n'est plus là, mais Placide était là. Il a dit que ces deux semaines étaient très enrichissantes, surtout le partage d'expériences entre participants. Et je veux rajouter que moi, j'étais étonnée. Il y avait pas mal de discussions sur la sécurité. Parce qu'en termes de l'Ebola, tous les aspects de stigma, mais aussi de peur autour de la riposte des maladies, en fait, dont on parlait de l'efficacité des immunisations, tout était perturbé par les questions de sécurité. Des personnes qui vont dans même les personnes qui viennent de ces communautés il y a peur autour de ça, donc c'est pas juste les étrangers, mais quand même bon. Merci aux organisateurs pour le choix de sujet et de présentation et bon, bravo. Et puis il y avait Christiane Massoudi qui de j'ai oublié le nom de son pas grave. Deux semaines riches en informations, et il était aussi très impressionné par la science politico-sociale dans les interventions médicales. Puis aussi Tierno Abdoulaye Baldé qui a dit que en fait ça lui donnait un grand croix sur la jeunesse africaine qui était vraiment motivant pour lui de discuter toutes ces perspectives. Et puis dernièrement docteur Bourco qui a dit qu'elle voulait plus de participants dans des sciences sociales. Bon, bref, je vous invite, parce que c'est après l'atelier, on s'est organisé dans un réseau pour les gens qui s'occupent de ces épidémies émergentes, et je vous invite de nous rejoindre. Donc, il y a un site qui est aussi sur le site de cette journée qu'on peut suivre. Et ce n'est pas que pour les IRDiens. Merci.
Merci beaucoup. On ouvre 2 minutes pour des questions. S'il y en a. Moi, je ne peux pas en poser parce que j'ai participé à la préparation et j'étais là la première semaine, donc je serais malvenu de poser des questions. Mais... Oui.
E-learning. Ah, en fait, on a déjà parlé de faire un MOOC sur l'atelier. Et vu la demande qu'il y a, je pense que c'est vraiment ça pourrait être une bonne ressource pour toucher tous les gens qui veulent participer. Donc oui, on pensait déjà à ça. Donc, j'espère que ça va se développer. Oui. Oui, les critères de sélection. Oui, on visait à avoir un aspect divers, donc diverses disciplines, la diversité de disciplines, aussi l'expérience avec les maladies émergentes. C'était un des critères. Et aussi, les gens avec qui on voulait développer plus des liens de collaboration. Mais c'était pas un critère totalement... ouais.
Tu as développé pour la formation et tout ça?
Pas un manuel, mais on a écrit un article là-dessus. Pour le moment, car c'était moi qui l'a écrit, c'est en anglais. Mais on va publier bientôt quelque chose qui explicite toutes les choses. Mais aussi, s'il y a un MOOC, on va partager ça. Donc, c'est un... Oui, massive online learning course. C'est, ouais.
Le support de formation.
Comment?
Le support de formation n'était pas accessible.
Pas pour le moment, mais peut-être oui. S'il y a les supports de la formation, c'est pas partagé. Que avec les participants, mais je peux demander aux intervenants si on veut les partager. C'est une bonne question parce que tout est là, mais je ne sais pas s'ils veulent le partager à accès libre. Mais je vais le poser la question. Ouais.